إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'étude du livre de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala intitulé « Leçon importante pour toute la communauté ». Nous avons vu dans le dernier cours la leçon 15 dans lequel le shaykh rahimahullah ta'ala nous a exposé les nobles caractères desquels il est légiféré de se parer pour tout musulman. Dans la leçon d'aujourd'hui, qui est la leçon 16, et que vous retrouvez à la page 38 sur le livret PDF, le shaykh rahimahullah ta'ala nous expose les bonnes conduites islamiques, c'est-à-dire des choses qui sont légiférées à certains moments et dans certaines situations pour le musulman. Il dit, rahimahullah, parmi les bonnes conduites islamiques à adopter, il y a, premièrement, passer le salam et être souriant. Donc avant de commencer, je tiens à souligner que la numérotation que vous voyez dans le livret PDF est un effort lors de la traduction. Mais le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné les points que vous voyez, les uns à la suite des autres. Il a donc dit, rahimahullah ta'ala, passer le salam et être souriant. Le salam, le fait de s'adresser les salutations, cela fait partie des bonnes conduites islamiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour les musulmans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du meilleur islam, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de donner de la nourriture, c'est-à-dire de nourrir les gens, et d'adresser le salam, d'adresser les salutations, à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. C'est-à-dire que les musulmans, ils s'adressent ces salutations les uns les autres, sans tenir compte du fait, est-ce que je connais cette personne ou est-ce que je ne la connais pas. Mais à partir du moment où tu croises un musulman, tu lui adresses les salutations de l'islam en lui disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ceci fait partie des bonnes conduites islamiques. Et dans un autre hadith, rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les droits du musulman sur le musulman. Et parmi ces choses, il a mentionné lorsque tu le rencontres, adresse-lui le salam. Ceci fait donc partie des droits du musulman sur le musulman. Et ceci est un moyen d'entente, de concorde et d'union des musulmans, afin qu'ils s'aiment les uns les autres. Et c'est également une cause qui te permet d'entrer au paradis. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, tant que vous n'aurez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez le salam parmi vous. Adressez-vous mutuellement le salam. Ceci est une cause pour que les musulmans s'aiment les uns les autres. Et c'est une cause qui te permet de concrétiser ta foi. Et c'est une cause donc qui te permet d'atteindre le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le salam, comme on a dit, la manière de le passer, c'est le fait de prononcer cette parole que vous connaissez. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Donc vous voyez que cette parole, en plus d'être une formule de salutation, c'est une invocation immense. Tu dois être conscient de cela lorsque tu adresses le salam à tes frères et sœurs. Lorsque tu dis à quelqu'un « Assalamu alaykum » « Que le salut soit sur vous », cela signifie que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de tout mal, qu'il le préserve des choses nuisibles, des maladies, des nuisances des gens, qu'il le préserve également des péchés, des maladies du cœur, qu'il le préserve du feu de l'enfer. C'est une invocation générale qui englobe l'ensemble des choses nuisibles. Donc tu vois que c'est une dua immense. Il est important que tu sois conscient de cela lorsque tu l'adresses à tes frères et sœurs et que ce ne soit pas des simples syllabes que tu prononces avec ta langue. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. D'après Imrad ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhuma, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Assalamu alaykum ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, puis cet homme s'assit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors 10. Un autre homme est venu et a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, il s'assit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors 20. Un autre homme vint alors et dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il lui répondit alors, puis il s'assied et il dit 30. C'est-à-dire que celui qui a dit Assalamu alaykum, il a eu par cela 10 bonnes actions. Tandis que celui qui a dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, il a eu 20 bonnes actions. Et celui qui a dit la salutation la plus complète, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, alors il a eu 30 bonnes actions. On voit donc le mérite d'adresser ces salutations de façon complète. Et lorsqu'on t'adresse le salam, si une personne te dit Assalamu alaykum, alors il est obligatoire pour toi que tu lui répondes Wa alaykum assalam, et ceci est le minimum. Et le mieux est que tu ajoutes à cela Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une personne te dit Assalamu alaykum wa rahmatullah, alors au minimum tu devras lui dire Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Et s'il t'adresse ses salutations complètes en te disant Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, alors tu lui répondras de la même manière Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ce mettant en pratique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son noble livre, selon le sens rapproché, si on vous adresse une salutation, alors saluez d'une façon meilleure. Saluez d'une façon meilleure. Ou alors, rendez-leur. C'est-à-dire le minimum et que tu répondes de la même manière. Également, il fait partie des bienséances relatives aux salutations. Le fait de ne pas saluer d'un simple geste de la main, comme le font certaines personnes en se faisant seulement signe. Mais ce geste de la main, tu ne le fais que si la personne est loin, par exemple, et ne t'entend pas. Mais impérativement, tu devras accompagner ce signe de la salutation. C'est-à-dire que tu lèves ta main et tu dis « Assalamu alaykum » au minimum. Mais tu ne fais pas un simple geste de ta main, car ceci n'est pas une salutation. Également, parmi les bienséances relatives aux salutations, il y a le fait de te faire entendre par celui que tu salues. Car s'il ne t'entend pas, à quoi bon le saluer? Et lorsque tu entres dans un endroit où il y a des gens qui dorment, alors il est légiféré pour toi de passer le salam à voix basse, de sorte à ne pas réveiller celui qui dort et à te faire entendre par celui qui est réveillé. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait le salam dans ces situations, il le passait d'une manière à ne pas réveiller celui qui dort et à se faire entendre par celui qui est réveillé. Également parmi les bienséances relatives aux salutations, il y a le fait que celui qui est sur une monture, c'est lui qui va saluer celui qui marche. Par exemple, si tu es en voiture, c'est toi qui vas saluer celui qui est à pied, et non pas l'inverse. Et celui qui marche, c'est lui qui va saluer celui qui est assis. Si tu es en train de marcher, que tu croises un de tes frères qui est assis, il convient que tu commences toi-même par lui passer le salam. Également, que le petit groupe passe le salam au grand groupe. Si tu es seul et que tu croises un groupe de personnes, il convient que tu commences par leur adresser le salam. Ou si vous êtes un nombre inférieur de personnes, il convient que ce soit vous qui commenciez par leur adresser les salutations. Et ceci est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est sur une monture adresse les salutations à celui qui marche à celui qui est assis, et le petit groupe au grand groupe. » Et dans une autre version rapportée par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on trouve également « et le petit au grand ». C'est-à-dire que lorsqu'un jeune croise une personne âgée, il convient que ce soit lui qui commence par lui adresser le salam. Et qu'il s'empresse à cela, qu'il s'empresse à cette bonne action. Et qu'il n'attende pas que ce soit l'adulte ou la personne âgée qui commence par lui adresser le salam. Mais il s'empresse à lui passer le salam en premier. Et ceci fait partie des bonnes conduites islamiques et des bienséances relatives aux salutations. Également, parmi les règles liées aux salutations, il y a le fait qu'il est recommandé, lorsque tu entres dans une maison, d'adresser le salam à ces gens. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Quand vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement les salutations venant d'Allah, bénies et agréables. Enfin, parmi les règles liées aux salutations, il y a le fait qu'il n'est pas permis d'adresser le salam aux mécréants en premier. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, ne commencez pas à adresser le salam aux juifs et aux chrétiens. Et une question se pose ici. Il se peut qu'un mécréant, sachant que je suis musulman, ayant connaissance de la salutation de l'islam, par respect ou par simple courtoisie, me disent « Assalamu alaikum ». Que dois-je faire alors? Dans ce cas-là, comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il suffit de lui répondre « Wa alaikum ». Ceci était donc quelques règles essentielles, et elles sont encore nombreuses, mais on va se contenter ici de ces quelques règles, inshallah ta'ala. Et le shir rahimahullah ta'ala a dit « Et être souriant ». Et ceci est important. Il fait partie des bonnes conduites islamiques que le musulman se doit d'adopter, le fait d'avoir un visage radieux. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne méprise rien parmi les choses convenables, parmi les œuvres de bien, même si ce n'est le fait que tu rencontres ton frère avec un visage souriant. » Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Le fait de sourire à ton frère est pour toi une aumône. » C'est pour toi une aumône, le fait de lui faire un sourire. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font pas cet effort-là, le fait d'être souriant, d'avoir un visage radieux. C'est comme s'ils étaient toujours tristes. Et ceci s'oppose aux bonnes conduites que se doit d'adopter le musulman. Médite sur la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Jarir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, depuis que je suis entré en islam, il ne m'a pas vu sans me sourire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il le voyait, il souriait, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait donc partie des choses au sujet desquelles il convient aux musulmans de prendre exemple sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a mentionné parmi les bonnes conduites, manger et boire de la main droite, dire bismillah avant de manger et louer Allah après avoir terminé. Donc ceci concerne les bienséances relative au repas. Lorsque tu bois ou que tu manges, tu te dois de le faire de la main droite et de ne pas manger ni boire avec ta main gauche. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, lorsque l'un d'entre vous mange, alors qu'il mange de sa main droite, et lorsqu'il boit, qu'il boit de sa main droite, car certes le diable mange de sa main gauche et boit de sa main gauche. Le musulman, il ne doit donc pas s'assimiler au diable. Mais il lui incombe de se soumettre à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de boire et de manger de la main droite. Et ceci est une chose importante. Tu ne dois pas penser que c'est un ordre insignifiant. Il ne convient pas d'être laxiste à ce sujet. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Salama ibn Amr ibn al-Aqwa' radiyallahu ta'ala anhu qu'un homme a mangé de sa main gauche en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris et lui a dit « Mange de ta main droite ». L'homme répondit alors « Je ne peux pas ». Il y a des personnes aujourd'hui, quand on leur fait le rappel à ce sujet, ils te disent « Je ne peux pas » dans le sens où il est habitué à manger avec sa main gauche. Laisse-moi, je suis habitué à faire comme ça. Il pense que c'est une chose sans gravité. Méditez sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam « Que tu ne puisses pas ». C'est-à-dire qu'il a invoqué contre lui. Pourquoi? Car rien ne l'empêchait de manger de la main droite, si ce n'est l'orgueil. Il est rapporté qu'après cela, cet homme n'a plus pu lever sa main jusqu'à sa bouche. C'est-à-dire que sa main s'est paralysée. Il a été sanctionné en raison de son opposition à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il mangeait de la main gauche par orgueil et a refusé de se soumettre à cet ordre. Les gens de science ont mentionné que ce hadith est une preuve que celui qui s'oppose à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par orgueil ou par mépris de la sunna, alors il encourt le châtiment. Il est à craindre pour lui qu'il se fasse châtier. Également, parmi les bienséances relatives au repas, il y a le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de manger ce qu'il y a devant toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à un enfant, mentionne le nom d'Allah, mange de ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et méditez sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne cela à un enfant. Cela nous montre l'importance d'inculquer aux enfants les bonnes conduites islamiques et ce dès leur plus jeune âge. Ne te dis pas il est petit, il a encore le temps. C'est maintenant que tu lui inculques ces choses. C'est maintenant qu'il prend les bonnes ou les mauvaises habitudes, lorsqu'il est tout petit. Si tu lui apprends dès son plus jeune âge à manger de la main droite, Il va grandir et il n'aura pas idée d'utiliser sa main gauche pour manger. Mais si tu le laisses manger comme il le souhaite, sans ne rien lui inculquer parmi les bonnes valeurs et les bonnes conduites, alors ceci deviendra pour lui une habitude. Une habitude de laquelle il aura du mal à se détacher. Il se peut qu'en grandissant, il en veuille à ses parents, en raison de ce laxisme. Donc ne pense pas que laisser faire ton enfant ce qu'il souhaite, manger comme il veut, boire comme il veut, jouer comme il veut, ceci fait partie de la bienfaisance envers lui. La bienfaisance envers ton enfant, c'est que tu lui inculques dès son plus jeune âge les règles de l'islam, les bonnes conduites islamiques, les bons comportements et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet enfant, mentionne le nom d'Allah, dis bismillah avant de manger, mange de ta main droite et mange ce qu'il y a devant toi. C'est-à-dire tu ne vas pas manger la nourriture qu'il y a devant les autres lorsque tu es à table. Également, il est légiféré avant de manger de prononcer l'invocation qui nous est rapportée. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Oh Allah, place pour nous de la bénédiction en cela, en ce repas, et nourris-nous d'une chose meilleure encore. Parmi les bienséances relatives au repas, qui sont négligées par beaucoup de personnes également, il y a le fait de ramasser la nourriture qui tombe au sol. Il arrive parfois que lorsque tu manges, une bouchée de nourriture tombe sur le sol. Et beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent cette nourriture et ils la jettent à la poubelle. Il y en a même certains, le simple fait que la nourriture tombe sur la table, ils ne la mangent plus. Ils ne mangent que ce qu'il y a dans son assiette. Et ceci s'oppose aux bonnes conduites islamiques que le musulman se doit d'adopter. Il est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la bouchée de l'un d'entre vous tombe par terre, alors qu'il la ramasse et qu'il retire ce qu'il y a de nuisible sur elle, c'est-à-dire, s'il y a une saleté dessus, il n'y a pas de mal, à rincer cette nourriture, à la nettoyer, et qu'il la mange, et qu'il ne la laisse pas au diable. C'est-à-dire que si tu la laisses, si tu es dehors par exemple, que tu laisses cette nourriture par terre, ou alors que tu es chez toi, que tu la ramasses et que tu la jettes à la poubelle, dans ce cas-là, tu as offert cette nourriture au diable, walayadu billah. Donc le musulman, il se doit de faire preuve d'humilité, de ne pas être orgueilleux, et d'avoir du respect pour ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Cette nourriture que tu manges, c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être conscient de cela. Donc, il te convient de te soumettre à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire preuve d'humilité, ramasser cette nourriture, la nettoyer si besoin il y a, et de la manger, et d'en priver le diable. Tu ne dois pas la laisser au diable. Et à supposer que cette nourriture soit tombée dans un endroit impur, dans un endroit vraiment sale, dans un endroit où il se peut qu'il y ait une nuisance à la ramasser, à la manger. Alors, dans ce cas-là, il est légiféré pour toi de ramasser cette nourriture et de la mettre dans un endroit où les animaux pourront la manger. Mais tu ne la laisses pas au diable. Ceci est un point important. Également, parmi les bienséances relatives au repas, il y a le fait de ne pas dénigrer la nourriture. Ceci est une chose courante aujourd'hui. Tant souvent les gens dénigrer certains plats, ceci n'est pas bon, ceci est immangeable, avec des mots qu'il ne convient pas aux musulmans de prononcer, qui manifeste une certaine forme d'irrespect envers ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dénigré une nourriture. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se peut qu'il y ait de nourriture que tu n'aimes pas et que tu n'as pas envie de manger. Qu'est-ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'il l'a désiré, il l'a mangé. Si la nourriture, il l'a désirée, elle lui plaisait, il l'a mangée. Et s'il l'a réprouvée, alors il l'a délaissée. Il l'a délaissée. Tout simplement. Ce que tu aimes, tu le manges, et ce que tu n'aimes pas, tu le délaisses. Et tel était le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bienséances relatives au repas, il y a le fait d'essuyer le plat et de manger toute la nourriture qui s'y trouve, et de lécher ses doigts après le repas. Et ce car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné cela, et il a dit, vous ne savez pas à quel endroit se trouve la bénédiction dans votre nourriture. C'est-à-dire, il se peut que la bénédiction qu'il y avait dans ce repas, elle se trouvait dans cette dernière bouchée qui a été abandonnée dans l'assiette. Il ne convient donc pas de la laisser. Enfin, parmi les bonnes conduites liées au repas, il y a le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir terminé. Et notamment en prononçant cette invocation qui nous est rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est de dire الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. Louange à Allah qui m'a nourri de cette nourriture et me l'a accordé sans force de ma part. Donc tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait et ceci te permet également de manifester ta faiblesse et ton besoin de ton Seigneur. C'est-à-dire que tu dois être conscient que si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'avait pas facilité ce repas, tu ne l'aurais pas obtenu. Tu ne l'as pas obtenu par ta force, ni par ton travail, ni par tes biens, ni par ton argent, ni par ta richesse. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a accordé. Quant aux choses que tu as pu faire pour obtenir ce repas, ce ne sont que des causes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité cela et qui t'a facilité ces causes. Également, si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait voulu, tu n'aurais pas été capable de manger cette nourriture. Ça aussi, c'est une chose de laquelle on doit être conscient. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Non pas par manque de moyens, mais pour des raisons de santé. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger certains aliments, qui sont privées de certaines nourritures, en raison de certaines maladies et de certains problèmes de santé. Donc le musulman, il doit louer Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler des bienfaits dont il a été comblé par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, il dit rahimahullah ta'ala, louer Allah après avoir éternué et dire yarhamukallah, celui qui a éternué, loue Allah. Donc ceci fait partie des bonnes conduites islamiques que le musulman se doit d'adopter. Lorsque tu éternues, il est légiféré pour toi que tu dises alhamdulillah. Lorsque tu entends ton frère qui éternue et qui dit alhamdulillah, il est légiféré pour toi de dire yarhamukallah. Ensuite, si c'est toi qui as éternué et qu'il te dit yarhamukallah après que tu aies loué Allah, alors il est légiféré pour toi que tu lui dises yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum. Et ce d'après le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qui a dit: lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise alhamdulillah, louange à Allah, et que son frère ou son ami lui dise yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et s'il lui dit yarhamukallah alors qu'il dise yahdikumullah wa yuslihu ba'alakum, qu'Allah vous guide et améliore votre situation. Et le fait de dire yarhamukallah, celui qui éternue et loue Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie des droits du musulman sur son frère. Comme cela nous est rapporté d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime l'éternuement et il déteste le bâillement. Donc, lorsque l'un d'entre vous éternue et loue Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit qu'il a sur tout musulman qui l'entend, qui lui dise yarhamukallah. Médite sur cette parole. C'est un droit qu'il a sur tout musulman qui l'entend. C'est-à-dire que si tu es dans un endroit où il y a plusieurs personnes, que quelqu'un éternue et dit alhamdulillah, c'est une obligation que tu lui dises yarhamukallah. Même si une personne lui a déjà dit, il est obligatoire pour toi que tu lui dises également yarhamukallah. Toute personne présente qui l'entend éternuer et louer Allah subhanahu wa ta'ala se doit de lui dire yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde, et ce, d'après ce hadith. Et si la personne éternue et ne loue pas Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne lui dit rien. On ne lui dit yarhamukallah que si on l'a entendu louer Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, rendre visite au malade. La visite du malade, elle fait également partie des droits du musulman sur son frère musulman. Et c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comme il est venu dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: visitez le malade. Et dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens rapproché: ô enfant d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. Alors, le serviteur dira: ô mon Seigneur, comment pourrais-je te visiter alors que tu es le Seigneur de l'univers? En effet, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être malade, car la maladie c'est une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute faiblesse. Mais ce qui est visé ici, comme vous allez le voir, c'est qu'un serviteur était malade. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela de cette manière afin d'honorer ce malade. Il dira ensuite: ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade et tu ne l'as pas visité? Ne sais-tu pas que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. On voit donc dans celui-ci le mérite immense qu'il y a dans la visite du malade. Également, il est rapporté dans un autre hadith, toujours par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, que lorsque le musulman visite son frère musulman, alors il ne cesse d'être en train de cueillir les fruits du paradis jusqu'à son retour. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui visite son frère malade un matin, alors il y aura 70 000 anges qui invoqueront pour lui jusqu'au soir. Et s'il visite son frère malade le soir, alors il y aura 70 000 anges qui invoqueront en sa faveur jusqu'au matin. Allahu Akbar. 70 000 anges. 70 000 anges qui sont des serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui invoquent en ta faveur pour cette visite que tu fais à ton frère lorsqu'il est malade. Et parmi les bienséances relatives à cette visite, il y a le fait de prendre garde à ce que l'on dit durant celle-ci et de ne prononcer que des bonnes paroles. En effet, l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous êtes en présence d'un malade ou d'un mort, dites du bien, car les anges disent « Amin » à tout ce que vous dites. » Les anges disent « Amin ». Donc, qu'est-ce qu'il te convient de faire lorsque tu visites un malade? Tu fais des invocations, tu prononces des bonnes paroles, tu lui rappelles le bien, tu fais des invocations en sa faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette maladie une cause d'expiation de ses péchés et de son élévation en degré, et ainsi de suite. C'est cela qui est demandé. Et également parmi les bienséances relatives à la visite du malade, il y a le fait que tu ne le visites que si cette visite ne lui cause pas de tort. En effet, il y a un grand mérite dans la visite du malade. Mais si en le visitant tu lui nuis, par exemple il est dans un état qui ne lui permet pas de recevoir de la visite, ou qu'il y a une gêne dans son foyer, alors dans ce cas-là tu t'abstiens de le visiter et tu invoques en sa faveur. Ou alors, si c'est possible, tu le joins par téléphone pour lui faire une belle invocation. Mais tu ne dois pas lui imposer cette visite, car il y a des personnes qui comprennent mal ce point-là. Ils voient le mérite qu'il y a dans la visite du malade, alors s'ils entendent que quelqu'un est malade, ils veulent à tout prix le visiter, même s'il ne veut pas être visité. Il se peut qu'il ne soit pas dans une situation qui lui permette de recevoir de la visite. Que ce soit une situation physique ou une situation morale, il se peut qu'il ait besoin de rester au calme chez lui auprès de sa famille. Il se peut qu'il ne puisse pas recevoir de personne. Dans ce cas-là, ne lui impose pas la visite. Et si tu le visites, fais en sorte que cette visite soit une visite profitable, qu'il ne soit pas une charge pour lui. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné, cinquièmement, suivre les convois funéraires pour la prière et l'enterrement. Et cela fait également partie des droits du musulman sur ses frères musulmans. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est présent lors des funérailles jusqu'à ce qu'on prie sur le défunt, alors il obtient un qirat. Et celui qui est présent aux funérailles jusqu'à ce que le mort soit enterré, alors il a deux qirat. » On lui demanda alors, ô messager d'Allah, qu'est-ce que ces deux qirat? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont comme deux montagnes immenses. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui suit le convoi funéraire d'un musulman avec foi et en espérant la récompense, et qui reste avec lui jusqu'à ce qu'on prie sur lui, et que l'on termine de l'enterrer, alors il revient avec comme récompense deux qirat, et chaque qirat est semblable à Uhud, le mont Uhud. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui prie sur lui, puis repart, c'est-à-dire avant qu'il soit enterré, alors il repart avec un qirat. On voit donc à travers ce hadith, le mérite immense qu'il y a dans le suivi du convoi funéraire, la prière funéraire et le fait d'assister à l'enterrement. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit, sixièmement, les conduites légiférées lorsqu'on entre à la mosquée, à la maison, ou lorsqu'on en sort, ainsi que lors d'un voyage. Donc ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala fait allusion à un certain nombre de conduites qui sont légiférées à ces moments. Par exemple, lorsque tu rentres à la mosquée, il est légiféré pour toi de rentrer de ton pied droit et de dire, Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et cette invocation est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Tu prononces donc cette invocation lorsque tu entres à la mosquée. Et lorsque tu sors de la mosquée, tu sors de ton pied gauche et tu dis, Bismillah, wassalat wassalam ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. « Ô Allah, je te demande de ta grâce. » Telle est la conduite qu'il convient aux musulmans d'adopter lorsqu'il rentre et qu'il sort de la mosquée. Et il y a une multitude de règles liées aux mosquées. Au comportement à avoir dans celle-ci, le fait de faire deux unités de prière avant de s'asseoir, de ne pas prononcer des paroles futiles, de s'occuper par le rappel d'Allah, et ainsi de suite, parmi les bonnes conduites qu'il convient aux musulmans d'adopter lorsqu'il est à la mosquée. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit, lorsque tu entres et que tu sors, de chez toi également. En effet, il est légiféré pour le musulman, lorsqu'il entre chez lui, de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire Bismillah. Tu dis Bismillah en entrant chez toi. Imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque l'homme entre chez lui et mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment d'entrer,
dit Bismillah. Et il dit Bismillah lorsqu'il mange aussi. Alors le diable dit, nous n'avons ici ni logis, ni repas. Le fait de dire Bismillah quand tu rentres et Bismillah quand tu manges, tu prives ainsi le diable de logis et de repas. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mais s'il rentre chez lui et qu'il ne mentionne pas le nom d'Allah, il ne dit pas Bismillah en rentrant. Alors le diable dit, à ses suppôts, vous avez trouvé un logis. Puis ensuite lorsqu'il mange, s'il ne dit pas Bismillah, le diable dit alors, vous avez trouvé un logis et un repas. Ceci nous montre qu'il est fortement recommandé pour le musulman de dire Bismillah lorsqu'il entre chez lui et également lorsqu'il mange. Et lorsque tu sors, il est légiféré de prononcer cette invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et qui est de dire Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah et il n'y a de force ni de puissance si ce n'est par Allah. Lorsque tu prononces cette parole, il t'est dit, tu as certes été guidé, comblé et protégé. Donc tout ceci nous montre l'importance pour le musulman d'être assidu à ces différentes invocations. Également, le cheikh nous dit lors d'un voyage, comme vous pouvez le trouver dans les livres de recueil de adhkar d'invocation, il y a un certain nombre de paroles qui sont légiférées de prononcer lors du voyage, que ce soit en quittant tes proches, en montant sur la monture, en commençant le voyage et ainsi de suite. Le musulman, il se doit d'adopter ses bonnes conduites et d'être assidu à cela. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, septièmement, les conduites légiférées avec les parents, les proches, les voisins, les grands et les petits. La bonté envers les parents et la bienfaisance envers eux, c'est une chose immense, qui fait partie des causes les plus importantes te permettant de te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné le droit des parents à plusieurs endroits dans son noble livre, après l'ordre de lui vouer un culte exclusif. Il dit par exemple وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorez que lui et soyez bon envers les parents. Et dans un autre verset وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et soyez bon envers les parents. Et c'est ainsi dans de multiples versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci nous montre l'importance pour le musulman d'être bon envers ses parents. Il y a de nombreux textes rapportés à ce sujet. On a vu le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, dans lequel Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nous dit qu'il a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la meilleure des œuvres, l'œuvre la plus méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors la prière en son temps. On a déjà vu cela dans un cours précédent. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui dit ensuite « Thumma ay, puis quelle est l'œuvre la plus méritoire après celle-ci ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « La bonté envers les parents. » Le fait d'être bon envers les parents. Ceci est donc une des œuvres les plus méritoires que le musulman ne doit pas négliger. En effet, celle-ci est une cause qui peut te permettre d'entrer au paradis. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à trois reprises qu'il soit humilié. Il dit cela à trois reprises, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. On lui demanda alors, qui ça au messager d'Allah? Il dit, celui qui a atteint un de ses parents ou les deux, alors qu'ils sont âgés, puis ne rentre pas au paradis. Celui qui a atteint un de ses parents ou les deux, alors qu'ils sont âgés, puis ne rentre pas au paradis. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les causes lui permettant d'être bon envers eux qui sont des causes qui lui permettront d'entrer au paradis. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la bonté envers les parents est une cause te permettant d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, l'agrément du Seigneur se trouve dans l'agrément des parents et la colère du Seigneur se trouve dans la colère des parents. Donc il convient aux musulmans d'être bon envers ses parents, d'obéir à leurs ordres tant qu'ils ne lui ordonnent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire preuve d'humilité envers eux, de ne pas manifester de l'orgueil ni de mépris vis-à-vis d'eux. Lorsque tu leur parles, de leur parler d'une manière douce, d'une manière agréable, d'une manière respectueuse, de ne pas les appeler par leur prénom, mais de les appeler d'un nom qui manifeste le respect. Également, le fait d'invoquer grandement en leur faveur. À chaque fois que tu invoques pour toi-même, invoque également pour tes parents, ceci fait partie de la bienfaisance envers eux. D'autant plus s'ils sont morts, alors tu te dois de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Car comme il est venu dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces personnes qui auront un rang éminent au paradis. Seront alors étonnés de cela, ils diront « Comment avons-nous atteint cela, ô Allah ?» Il leur sera alors dit « De par l'imploration du pardon de ton enfant en ta faveur. » C'est-à-dire qu'ils ont laissé après eux un enfant qui a imploré le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. Donc ceci est une forme les plus grandes de bonté que le musulman se doit d'accomplir pour ses parents. Et le shir rahimahullah ta'ala nous dit, ainsi qu'avec les proches c'est-à-dire les gens de ta famille, il te convient d'entretenir avec eux les liens de parenté. Et ceci fait partie des choses obligatoires pour le musulman, d'entretenir les liens avec sa famille, avec ses frères et sœurs, avec ses oncles et ses tantes, et ainsi de suite. Et ce, en les visitant si cela est possible, ou alors ne serait-ce que par un appel téléphonique, ou alors des cadeaux que tu puisses leur faire passer, et des invocations en leur faveur. Tout ceci fait partie de la bienfaisance envers les proches. Le shir rahimahullah ta'ala nous dit les voisins, les grands et les petits. En ce qui concerne les voisins, nous en avons déjà parlé dans le cours précédent. Et les grands et les petits, cela signifie que le musulman, il se doit de manifester du respect envers les grands, vers ceux qui sont plus âgés que toi. Ceci fait partie des comportements ordonnés par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit à celui qui a parlé avant celui qui était plus grand que lui, « Kabbir, kabbir », c'est-à-dire « Laisse le grand parler avant toi ». Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il fait partie de la vénération d'Allah d'honorer le musulman qui est âgé ». Personnes âgées parmi les musulmans, celui qui a la barbe blanche, il convient de le respecter et de l'honorer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas des nôtres celui qui ne fait pas miséricorde à nos petits et n'honore pas nos grands ». Donc le musulman, il se doit d'être miséricordieux envers les petits, ceux qui sont moins âgés que lui, et il se doit de faire preuve de respect envers les personnes âgées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre meilleur exemple à ce sujet en effet. Il faisait preuve de miséricorde et de compassion envers les enfants, comme cela nous est rapporté dans de nombreux hadiths, comme le fait qu'il les portait, qu'il les embrassait, et ainsi de suite. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, huitièmement, les félicitations pour le nouveau-né, l'imploration de la bénédiction pour les nouveaux mariés, ainsi que les condoléances suite à un décès. Donc tout ceci également, cela fait partie des situations où il y a certaines bonnes conduites qui nous sont rapportées et qu'il convient aux musulmans d'adopter. Lorsqu'il y a un nouveau-né, il est légiféré pour toi que tu invoques la bénédiction pour ce nouveau-né, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le compte parmi ses serviteurs pieux. Lorsque tu apprends la naissance d'un enfant dans ta famille ou de l'un de tes amis ou ainsi de suite, tu invoques la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, et également en faveur des nouveaux mariés. Comme cela nous est rapporté dans le hadith authentique, il est légiféré de prononcer à celui qui vient de se marier « Barakallahu lak » « Qu'Allah bénisse cela pour toi ». Également, il est légiféré lors des condoléances de prononcer ce qui nous est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim « Rahimahumallahu ta'ala ». Allah appartient à ce qu'il prend et à lui ce qu'il donne. Et chaque chose a auprès de lui un terme fixé. Passionne donc et espère la récompense. Ceci est la formule de condoléances qu'il est légiféré de prononcer. Enfin, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit, et d'autres conduites islamiques lorsqu'on s'habille, se déshabille ou se chausse. C'est-à-dire qu'il y a encore une multitude de bonnes conduites islamiques qu'il convient aux musulmans d'adopter. Parmi elles, celles liées aux vêtements. Le shaykh rahimahullah ta'ala dit lorsqu'on s'habille, se déshabille ou se chausse. Et parmi les choses les plus importantes liées à ce sujet, il y a le fait que le musulman, il se doit de porter des vêtements licites. En ce qui concerne l'homme, il ne lui est pas permis de porter de la soie ou de porter de l'or. Également, il doit prendre garde à l'isbal, le fait de ne pas laisser son vêtement descendre en dessous des chevilles, car ceci fait partie des grands péchés. Et en ce qui concerne la femme, elle se doit de se vêtir de son djilbab, de se couvrir entièrement et de s'écarter de toute chose l'assimilant aux hommes ou alors aux femmes perverses et mécréantes. Et également, parmi les choses légiférées, lorsque tu te chausses, il y a le fait de commencer par la droite. Et lorsque tu te déchausses, lorsque tu enlèves tes chaussures, de commencer par la gauche. En effet, il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait commencer par la droite en toute chose, même lorsqu'il se chaussait Il aimait commencer par la droite, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc le musulman, il lui convient de commencer par la droite lorsqu'il se chausse, et de commencer par la gauche lorsqu'il retire ses chaussures, et ce d'après le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le pied droit soit le premier à être chaussé, et le dernier à être déchaussé. C'est-à-dire que c'est une manière d'honorer la droite, que tu commences par celle-ci lorsque tu te chausses, et que tu commences par la gauche lorsque tu te déchausses. Et il y a encore une multitude de conduites qu'il convient aux musulmans d'adopter. Et pour cela, vous pouvez revenir à des ouvrages comme Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ou encore au livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera par la suite de lire certains chapitres de ces ouvrages. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.